On est au South Bar, placement des Ayoux, à Chamonix-Sud. Encore merci à eux de nous accueillir pour cette émission. Et également un grand merci à Altitude Alpine Dry Gin pour leur tente qui permet d'avoir la technique à l'abri de la pluie, parce que sans eux, je ne sais pas comment on aurait fait. Alors, on est en compagnie de Jennifer Joss. Bonjour, Jennifer. Et voilà. Et alors, Mélanie a préparé un petit portrait.
Alors, la Jennifer Jones que nous recevons aujourd'hui n'est pas l'actrice américaine de la tour infernale ou du duel au soleil. Mais voilà quand même le soleil, notre Jennifer Jones, celle qui est présente sur le bulle radio pour brancard, le soleil au soleil. Et puis elle y va au soleil. Elle rentre de Bangkok et elle part à Pointe-à-Pitre. Elle est dans une valise, cette femme. Cette blonde aux frisettes domptées et au sourire éclatant, pilote de l'île pour la France. Oui, pilote. De vrai. Vous avez vu le pilote, c'est une femme. Daniel Picoli, la première femme pilote entrée à Air France en 1974, en avait fait un livre. Bien connu pour son combat qu'elle a donné pour s'imposer dans ce métier. Alors, certes, les pionnières avaient pris ce moment vers la voix. Et on n'entend plus de. On ne leur fait pas confiance pour m'enlever le manche à balai, puisqu'elle reste derrière leur balai. Mais c'était tout de même pas simple parce que chez Air France, sur environ 3800 pilotes. Et bien, quand même, c'est pas gagné. Alors, comment est-ce que vous allez arriver? Votre papa, le chanteur, le chanteur est connu pour être pilote de ligne. Et entre deux concerts, il vous a offert 14 ans pour prendre un premier tour de vol avec une équipe. C'est là que vous allez haut et fort. Et vous découvrez très tôt qu'elle vend. Ça vous enlevait au 7ème tour. Le corps de l'été, il ne s'est pas fait. Un bac de pas fait pour attaquer. Une première année, ça se passe seulement. Une deuxième année, il se reprend. Une troisième année, puis la quatrième, 1200 places. Vous êtes enfin primaire. Deux ans ensuite, vous êtes à Toulouse, entre Macron et Bonne aussi. Et vous faites enfin votre entrée en France en 2001, juste après le 11 septembre. Et vous n'avez pas pensé, vous, que c'est un mauvais courage, ça. Non, ce n'est pas du tout votre genre. Vous avez pensé. Engagé comme syndicaliste, vous avez dédié du personnel au Bureau des Affaires internationales, puis comme présidente du SkyTeam Pilote Alliance, des 35 000 pilotes dans le monde, c'est pas rien quand même. Cet engagement, vous venez de le remplacer par vous avez des énergies à revendre, à donner. Mais où sont les trucs de votre temps, hein, pour faire en plus du parapente, des vols en hélicoptère, du planeur, du hockey, des cours de chant et maman en plus. Bon, la musique, bon, bah, ça c'était forcé entre votre maman prof de musique et votre père, Michael Jones, dans la famille, tout le monde fait de la musique, ça c'est important. Mais pourtant, pour vous, tout semble important. Arrivée à Chamonix parce que vous étiez amoureuse, vous êtes aujourd'hui amoureuse de Chamonix et bien décidée de continuer à faire pousser vos deux bambins ici, protégés dans la solidarité et la douceur chamonnière. Alors Jennifer Jones, bonjour et bienvenue dans Rancard. C'est un plaisir. Alors, le Chamonix du ciel, c'est quoi pour vous?
Le Chamonix du ciel, c'est une
chose
Thank you. de comment on vole, et 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 de comment on vole.
Oui.
On vole, on a des choses de l'hôpital, on va se trouver dans l'année, et c'est très facile de voir.
Oui, c'est ça, je voulais voir vous poser la question, c'est différent, le de jour et de nuit.
Oui, alors la nuit, quand on a le temps d'avoir un bon soleil, on voit très tellement le soleil, le blanc qui se passe. Et en fait,
donc vous voyez les travailleurs de nuit en fait. D'accord. Et avec ça fait quand même plusieurs années donc que vous êtes pilote et vous avez vu les glaciers souvent. Est-ce que vous voyez le recul des glaciers ou pas? Est-ce que vous savez au fur et à mesure des années vous vous rendez compte que ça a changé?
Oui, on le voit. Évidemment pas autant que sur les photos que vous voyez.
D'accord, donc ça vous le voyez vraiment, vous avez vu. Bon, et comme tout le monde, vous avez dû arrêter votre activité pendant le Covid. Alors comment est-ce qu'on fait quand on est pilote? Parce que ça. Vous ne restez pas chez vous tranquille et reprenez un avion comme ça, rassurez-moi un peu là.
Alors, moi, on est parti sur l'été. C'est vrai que le monde a continué à fonctionner. C'est vrai que le monde a continué à fonctionner. C'est vrai que le monde a continué à fonctionner. C'est vrai que le monde a continué à fonctionner. Donc, d'abord, on a continué à fonctionner. On a rapatrié énormément de personnes, on a rapatrié 250 000 personnes à travers les deux ans, on a rapatrié avec des compagnies, des compagnies et des compagnies aussi.
D'accord, mais du coup, quand vous avez arrêté ou pas? Donc, du coup, quand on arrête, c'est comme reprendre le vélo après, vous remontez dans un avion, hop, hop, et puis c'est reparti.
Alors, le pilote, c'est un peu comme une.
C'est vrai? D'accord. On va écouter un petit peu de musique et puis on se retrouve juste après. Merci Jennifer Jones.
I'm trying to hold my phone. Brussels.
L'aviation, c'est une industrie qui ne cesse d'essayer d'être la plus propre possible. Chaque nouvel avion qui sort, chaque nouvelle technologie fait qu'il y a moins d'empreintes écologiques, moins d'empreintes carbone. Et il faut savoir, par exemple, que nous, notre travail quotidien dans l'avion, c'est qu'on calcule au plus près un carburant pour faire, par exemple, là, le Paris-Bangkok. On va le faire en fonction de la route, mais aussi de la météo, et puis des conditions à l'arrivée, et de savoir au plus juste ce qu'on va prendre comme carburant. Et puis pendant le vol, on a des outils qui nous permettent de réduire la vitesse, d'augmenter notre altitude pour consommer de moins en moins. Et ça, on le fait tout le temps. Ah oui, oui, parce que c'est aussi une question, certes écologique, mais aussi économique, bien sûr. Alors après, on n'a pas tous les mêmes outils, et nous, la chance qu'on a, même s'il y a le Covid et c'est très compliqué pour tous les transporteurs aujourd'hui, c'est qu'on avait déjà décidé de renouveler notre flotte avec des avions bien plus propres. Donc là, on a les A350, les Airbus qui arrivent, et il va y avoir les Airbus A220 sur moyen courrier qui vont arriver, qui sont des avions vraiment propres. On a déjà le Boeing 787, qui sont des avions plus légers et qui consomment vraiment beaucoup moins de carburant. Par exemple, j'étais sur 787. Sur le même vol, on consommait 20% à 30% de moins de carburant que sur le Boeing 777. Le transport aérien, c'est 2 à 3% des émissions de CO2. Ce qu'on dit moins, c'est que le numérique, c'est 10% des émissions de CO2. Et on dit qu'il faut arrêter de prendre l'avion, c'est pas bien. Il y a plein de personnes qui commencent à dire ce genre de choses. Déjà, il faut arrêter de stigmatiser parce que l'avion, ça sert à quelque chose. ça sert à consommer. Ça, on peut peut-être un peu moins consommer, ça pourrait être une bonne idée. Mais ça sert aussi à rapprocher les familles, à rapprocher les gens qui s'aiment. Ça sert à partir en vacances, mais partir en vacances, ça sert à découvrir le monde. Ça sert à... Je pense que ça ouvre l'esprit. Moi, aujourd'hui, j'ai fait 4 vols depuis le Covid. New York, Pointe-à-Pitre, Hong Kong et Bangkok. C'est très particulier de voyager en ce moment. Ça permet de voir qu'en France, on est très bien. Quand je vois les États-Unis, ce que j'ai vu à New York avec des places vides, des gens stressés. En plus, c'était exactement en même temps que les émeutes qui concernaient George Floyd. Donc, c'était très, très difficile. Le système médical américain qui est sinistré. Franchement, ça, vous savez bien, les Français, on se plaint souvent. Bon, et ben, voilà, on est vraiment plutôt bien lotis. En Asie, là, j'ai fait Hong Kong et Bangkok. Dans ces deux villes, il y a d'énormes tensions politiques. Ça aussi, c'est très tendu en ce moment dans le monde. Et c'est important de le voir. Alors, tout le monde ne peut pas le voir. Nous, on est des travailleurs nomades, donc on le voit. Mais quelqu'un qui part à l'étranger découvrir le monde, il va obligatoirement s'ouvrir l'esprit. Après, je pense qu'il faudrait éduquer les gens, et puis nos enfants aussi, surtout, par rapport au numérique. Voilà. Une minute de YouTube. Tout le monde connaît YouTube. C'est un an, une ampoule allumée. Voilà, c'est ça. Voilà. Le problème de YouTube, c'est qu'on y voit pour voir une vidéo. En fait, on en regarde 10. Et les enfants, notamment, les adolescents sont habitués à faire ce genre de choses. J'ai d'autres exemples. Il y a les mails, par exemple. Par heure, il y a 12 milliards de mails qui sont envoyés. 12 milliards. C'est l'équivalent de la production nucléaire de 18 centrales. Un film regardé en streaming, en HD, on le fait tous, ça. C'est la même chose que si on regardait le film qu'il avait été produit sur un DVD, fabriqué, envoyé et qu'on le regardait sur un lecteur. Et puis le dernier truc que j'aime bien dire aussi, c'est Google. Google, c'est 40% des émissions de CO2 d'Internet, mondialement. Donc c'est énorme. Par heure, c'est 140 millions de recherches. 140 millions de recherches, c'est l'équivalent de 1000 allers-retours Paris-New York. Voilà. Donc, il y a des petites choses toutes simples à faire.
Alors, on a une super prévue sur le blog de radio qui est faite par Charlotte et Jean-Claude, et ils ont travaillé là-dessus. Donc, on vous l'enverra. On vous enverra un lien.
Ah, volontiers.
En tout cas, merci. C'est super d'avoir un point de vue aussi différent et d'avoir des comparatifs. C'est vraiment chouette. Vous êtes maman aussi.
Oui.
Et être maman et pilote,
ça se passe bien, il faut bien s'organiser. Il faut bien s'organiser avec le papa aussi. Il se trouve que le papa est pilote aussi, et donc on est en garde alternée et que ça se passe très bien, on arrive à bien s'organiser. On a la chance d'avoir des plannings qui sont à l'avance. On a des vues 3 mois, 2 mois, et puis 1 mois à l'avance. Et puis après, au dernier moment... des petites choses qui peuvent changer, mais c'est assez facile de s'organiser. Puis on a des enfants qui sont très habitués à savoir qu'ils restent 4 nuits chez papa, et puis après, qu'ils vont 3 nuits chez maman, et que maman, elle appelle, ah non, mais là, est-ce qu'il fait jour, maman, ou pas, enfin, voilà.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous conseillez à un jeune ou une jeune qui a envie d'être pilote? Alors, je crois que vous avez dit tout à l'heure, on va parler de formation, est-ce que vous pouvez vous corriger?
Oui, alors en fait, moi j'ai fait le concours de l'École nationale d'aviation civile, l'ENAC. Et tout à l'heure, vous avez dit que l'année où je l'ai réussi, il y avait 1200 places. Non, on était 1200 candidats. En gros, c'est toujours pareil. Il y a entre 1000 et 1200 candidats. Et l'année où je l'ai réussi, il y avait 23 places.
D'accord.
Donc, c'est pas grave. Non, c'est juste parce qu'en fait, c'est un peu compliqué. Ça demande et du travail et de la chance. D'avoir ce concours. Je voulais pas que les jeunes puissent se dire « Ah ben, ça peut s'ouvrir autant ». Non, ça ne peut pas s'ouvrir autant. Je pense qu'aujourd'hui, on en est plus à peu près à une quarantaine de places, hors Covid. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va avoir beaucoup, beaucoup de pilotes au chômage et je ne suis pas sûre que l'École nationale d'aviation civile va peut-être continuer, on va peut-être justement se retrouver avec des années où il va y avoir 4 places, 0, enfin, je ne sais pas. Il y a l'École nationale d'aviation civile, il y a les cadets d'Air France, c'est à peu près la même formation, sauf qu'on rentre directement à Air France, formé par Air France. Il y a la carrière militaire, possible aussi. Et puis on peut aussi se former en privé, c'est-à-dire aéroclub. Et puis ensuite, accumuler des heures de vol en France ou à l'étranger. C'est souvent moins cher à l'étranger. Et puis, voilà, après, rentrer dans des compagnies d'aviation d'affaires. Et puis, alors, le problème, c'est que là, aujourd'hui, ça va commencer à être très, très compliqué. Ouais, oui.
Et l'endroit où ton endroit préféré dans le ciel, c'est quoi ?
Mon endroit préféré dans le ciel ?
Alors,
ça va être assez peut-être étonnant, je ne sais pas, mais c'est quand même ici un des plus jolis endroits à survoler, vraiment. Je crois que chaque pilote, quand on sait qu'on va passer au-dessus des Alpes, on est ravis. J'ai beaucoup aimé l'atterrissage à Tahiti, j'en ai fait un l'année dernière, où au bout de 8 heures de noir complet, au-dessus de la mer, on voit une lumière. Et on atterrit sur une piste à Tahiti, à l'autre bout du monde. Et ça, ouais, c'est magique.
Et l'endroit où on préfère la famille, mais avec les pieds sur terre ?
Bah, y a plusieurs endroits,
bien sûr. Il y a toujours un ou deux endroits où on aime aller se ressourcer, où on sait que...
Alors,
ça
va être assez bateau ce que je veux dire, mais j'avoue que ma terrasse, c'est ça, j'ai un jardin avec une vue splendide sur le dôme du goûter. Alors, je les enverrai, moi j'aime bien la rue des Moulins. Voilà, parce que c'est un endroit où la journée on peut se retrouver à boire un très bon thé ou café bio avec voilà, quelques boutiques avec une jolie vue. Et puis le soir, c'est une autre ambiance. C'est ça, mais justement j'aime cette ambivalence de cette rue.
D'accord, très bien. Bon, on est toujours au bar en tout cas. Merci beaucoup, Jennifer Jones. C'est un plaisir de vous recevoir. Et on va écouter. Thank you.